Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Dominique Sénard, PDG du groupe Renault Nissan Mitsubishi. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Jean-Dominique Sénard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés, pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et Adrien Jeanne de LCI. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Comme d'habitude, vous pouvez réagir en direct dans cette émission. Hashtag Le Grand Jury. Et vos questions seront posées à notre invité en fin d'émission par Marie-Pierre Haddad. Alors Jean-Dominique Sénard, vous êtes l'homme de la semaine un peu malgré vous, puisque ce fut pour annoncer un plan de redressement de Renault jamais vu depuis 2013. 15 000 suppressions d'emplois dans le monde, donc 4 600 en France. Vous qui avez pris les rênes de Renault il y a à peine un an et demi pour remplacer Carlos Ghosn, prodige devenu paria, vous nous direz d'ailleurs pourquoi. Vous aussi, Jean-Dominique Sénard, qui avez pourtant eu à cœur de vous forger une image de patron social. Vous avez d'ailleurs rédigé un rapport sur l'utilité sociale de l'entreprise avec l'ancienne numéro 1 de la CFDT, Nicole Notta. Vous voilà le premier PDG à engager un plan social massif au sortir d'un confinement inédit et alors que les Français sont plus que jamais inquiets de la crise économique, du risque d'effondrement même, selon les mots du Premier ministre qu'on leur prédit aujourd'hui. Une anxiété, vous l'imaginez bien sûr, qui concerne en premier lieu vos salariés. Et une fois n'est pas coutume dans cette émission, eh bien nous allons leur donner la parole pour cette première question. Écoutez Jérôme Delvaux, secrétaire CGT de l'usine Renault de Maubeuge.
Bonjour, alors Monsieur Sénard, pour MCA, pourquoi êtes-vous venu il y a quelque temps en nous disant que nous étions première usine du groupe ? Nous n'avions aucune inquiétude à avoir, que notre avenir était tout tracé pour MCA, alors qu'aujourd'hui vous nous demandez de faire des concessions pour l'entreprise de MCA et peut-être une délocalisation du Kangoo vers Douai. Merci.
Jean-Dominique Sénard, vous entendez l'émotion de ce salarié ?
Oui, je l'ai entendu et je voudrais lui dire d'abord remercier de m'avoir auprès de vous parce que ça va me permettre de m'exprimer. Et je voudrais dire aux équipes de Maubeuge que je comprends parfaitement leur émotion. Je la comprends à bien à titre. D'abord parce qu'en effet, j'étais sur le site il y a quelque temps et je n'avais pas l'intention de renier mes propos. J'ai encouragé l'équipe, je lui ai dit tout le bien que je pensais du travail qui a été fait. Je n'ai pas changé d'avis. Ces images d'hier m'ont ému profondément parce que j'ai vécu dans ma vie d'industriel des périodes difficiles et j'ai le sentiment de retrouver cette émotion qui est tellement naturelle, surtout quand on a la passion de l'industrie. Et je crois avoir la passion de l'industrie. Je comprends l'émotion des familles, alors même d'ailleurs que je n'ai même pas exprimé sur la base de rumeurs qui avaient été plus ou moins fondées. Le groupe ne s'était pas encore exprimé et les élus ont voulu organiser une manifestation avant même que je puisse m'expliquer. Je comprends cette émotion. Comment ne pas la comprendre? Et pas la comprendre. Imaginez-vous, pour moi, ce que représente de voir mon nom écrit à côté du mot trahison. Et imaginez-vous, moi qui ai, je crois, la capacité de me regarder dans une glace en me disant que dans toute ma carrière industrielle, je n'ai trahi personne.
Alors, au-delà de votre de l'émotion qui est exprimée, que vous comprenez. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur ce qui va advenir de ce site de Maubeuge? L'inquiétude, on l'a bien comprise dans la manifestation d'hier, c'est de savoir si la production de l'utilitaire Kangoo va être transférée à Douai, et si oui ou non, à l'avenir, il y aura toujours des productions de véhicules à Maubeuge, ou si ce site a vocation à être fusionné, et donc peu à peu, peut-être pas tout de suite, mais à terme, à disparaître.
Ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est que nous allons construire tout cela ensemble. Le plan dont nous avons parlé là est un projet. Et comme tout projet, il va être discuté. Nous l'avons d'ailleurs indiqué aux organisations syndicales avant même la publication du plan. Nous allons donc maintenant nous mettre au travail. Nous l'avons dit très clairement, dans un cercle extrêmement ouvert de parties prenantes. Et nous allons discuter de l'avenir de Renault, discuter de l'avenir des usines du Nord. Il faut que vous sachiez que ce plan est un plan beaucoup plus global. C'est un plan qui concerne le monde entier chez Renault.
Mais pour le bien de Maubeuge, vous en parler. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre l'engagement que la production de véhicules continuera à Maubeuge.
Parce que c'est quelque chose que je souhaite discuter avec les organisations syndicales et avec les parties prenantes. Tout est ouvert. Vous savez, j'ai appris depuis longtemps qu'on pouvait avoir des idées, des perspectives, mais que sur le terrain, en général, les équipes vous apportent énormément d'idées nouvelles. J'ai toujours vécu comme ça, je n'ai pas l'intention de changer maintenant. Par conséquent, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous prendre en main avec les élus de Maubeuge, avec les équipes, les syndicats, les représentants des salariés, ceux de Douai aussi, ceux du Nord. Et je vous dirai pourquoi. Et nous allons travailler ensemble. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire.
Parce que quand ils vous entendent, ils vous écoutent là, ils sont très attentifs, ils se disent...
Mais je comprends.
Est-ce que notre usine, il est possible qu'elle ferme ou pas? C'est la question. Alors, ils vous demandent presque un engagement solennel. Est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui, votre
je
usine ne fermera pas?
Je n'ai jamais parlé de fermeture de Maubeuge. Jamais.
Et ça ne sera pas le cas.
Je n'ai aucune intention, a priori, de fermer l'usine de Maubeuge. Je vous assure, je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai même pas pensé d'ailleurs. Simplement, parfois, les propos peuvent être distillés, interprétés, et je le dis ici solennellement, rien ne se fera dans le nord de la France, lieu que je souhaite à terme voir comme étant un des grands centres d'automobile en France, et je vous en dirai un mot si vous voulez bien tout à l'heure, rien ne se fera sans cette discussion ouverte avec tout le monde, où comme je l'ai toujours fait dans ma vie, tout est sur la table, on montre tout, on voit ce qui se passe, et on décide ensemble quelle est la meilleure formule. J'ai toujours fait comme ça, je vais pas changer maintenant.
Mais que s'est-il passé? Parce qu'à Maubeuge, en novembre 2018, votre prédécesseur Carlos Ghosn était sur le site, annonçait 450 millions d'investissements. Emmanuel Macron, président de la République, était là aussi pour dire que c'était un site exemplaire. Est-ce que c'est juste le virus ou pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'interroge sur l'avenir de cette usine?
Je vais vous dire, je suis profondément ému par tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Je vous l'ai dit pourquoi, et même à titre personnel. Mais j'ai un devoir qui est un devoir de dirigeant d'entreprise, qui est de dire la vérité, un devoir d'anticipation et un devoir de lucidité. Et je m'imposerai ce devoir jusqu'au bout. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'industrie automobile a vécu un séisme majeur, que Renault est fragile. Renault était fragile avant la crise du virus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec Clotilde Elbos et son équipe, nous avions décidé que dès février, nous présenterions un plan de...
Il n'y aurait pas de tabou, avez-vous dit à l'époque.
Sans tabou. Ce n'est donc pas une surprise. Il fallait déjà à l'époque considérer qu'il y avait un gap de compétitivité entre Renault et le reste du monde. Le Covid n'a évidemment rien arrangé. Vous vous doutez bien qu'une entreprise de la taille de Renault qui du jour au lendemain ne prend pratiquement plus une voiture alors que nous payons tous nos fournisseurs Roubis sur l'ongle, automatiquement nous avons un problème de trésorerie. Ce que je voudrais dire, c'est que le devoir de vérité, c'est de regarder les choses en face et de prendre les dispositions nécessaires pour que Renault redevienne une entreprise majeure du monde automobile. Je suis absolument décidé avec les équipes de Renault, toutes, à ouvrir le débat, mais à faire en sorte que l'on gagne la partie, parce que je crois que, comme toutes les équipes de Renault, j'en ai assez que l'on parle de Renault comme étant le dernier de la classe. Ce n'est plus possible.
C'est-à-dire, j'en ai mis ça très concrètement, sans ce plan, Renault peut mourir.
Mourir est toujours excessif.
C'est ce que Renault... disait Louis Schweitzer au micro de RTL il y a quelques jours.
Oui, mais
et c'est... Bruno Le Maire disait que c'est une question de survie.
Ce n'est pas une équation que je vais traduire avec ces mots-là, même si, de fait... À terme, forcément, toute entreprise est mortelle. Ce que je veux dire, c'est que si nous ne faisons rien aujourd'hui, en effet, un certain nombre de sites de notre pays en particulier sont à risque, je le dis très solennellement, mais ça veut dire que nous devons nous y mettre, nous allons nous mettre au travail, je vous promets avec toute la passion qui m'anime, et nous allons ensemble trouver les solutions. Encore une fois, je suis certain qu'on va y arriver, et je voudrais dire aussi une chose, c'est que si j'ai un grand principe qui m'anime, vous avez dit que j'avais... semble-t-il, d'une réputation de patron social, je n'ai pas l'intention de changer de réputation. Il n'y aura, quoi qu'il arrive, aucun licenciement. Il n'y aura aucune souffrance sociale. Je veux qu'on m'entende ici, aucune.
Ça veut dire, candidat au départ,
ça veut dire,
ce que ça veut
dire. On va prendre le temps. Tout se prépare dans le temps. Nous allons prendre le temps qu'il faut pour bien préparer les choses, trouver une solution pour chacun, le cas échéant. Je vous assure, je n'ai jamais laissé une seule personne sur le bord de la route. C'est pas maintenant que je vais commencer.
Mais juste, pardon, sur Maubeuge, quand même, 2100 employés aujourd'hui, vous nous confirmez, 2900 à Douai. Est-ce que ces 2100 salariés de Maubeuge, qui encore une fois doivent être à l'écoute aujourd'hui, est-ce que vous leur dites qu'une partie sera contrainte d'aller à Douai? Combien en restera-t-il d'ici 3 ans à Maubeuge?
À ce stade, strictement, ni contrainte, ni obligation. Je veux une discussion ouverte et je veux que tout soit sur la table. Parce qu'aujourd'hui, tout ne l'est pas. Mmh. Et il y a un certain nombre de réalités que tout le monde doit bien comprendre. Et j'aimerais pouvoir avoir l'occasion avec vous d'expliciter la globalité du plan, que vous compreniez qu'est-ce que nous cherchons. Parce que ce plan n'est pas un sujet Maubeuge. J'ai l'immense respect pour Maubeuge. J'ai d'ailleurs dans mon bureau une photo de moi au milieu de l'équipe de Maubeuge. J'en suis très fier. Je pense que ces gens de Maubeuge sont des gens extraordinaires. Ils sont capables de faire des choses que je n'imaginais même pas avant de ma visite à Maubeuge. Ça ne va pas changer. On a besoin de ces compétences. On a besoin d'eux. Mais le problème du groupe Renault va bien au-delà du problème de Maubeuge.
On y viendra.
Encore un mot sur le plan social. Parce que vous dites, c'est ouvert, il y a des discussions.
Bien sûr.
Mais il y a quand même cet objectif de 4600 suppressions d'emplois en France. Celui-là, il est décidé et il ne bougera pas.
Parce qu'il faut comprendre pourquoi nous sommes dans cette situation-là. Je crois que tout le monde peut comprendre que nous avons créé une entreprise qui était destinée, a priori, à fabriquer 5,5 millions de voitures. Nous en avons fabriqué que 3,8 millions. Ce n'est pas la peine de faire de longs travaux sur le sujet pour comprendre qu'on a un sujet. En fait, si vous voulez, nous sommes trop importants dans nos structures, partout.
Vous avez trop d'usines.
La course au volume que nous avons, d'une manière ou d'une autre, mise en œuvre, c'est vrai d'ailleurs pour Nissan, a provoqué un certain nombre de situations, tant dans le niveau de l'ingénierie que au niveau de nos frais généraux, que dans le niveau de la production, d'une forme de surcapacité. Est-ce que je peux vous dire un chiffre?
Vous n'atteindrez jamais cet objectif.
En France, une capacité de production de voitures de l'ordre de 1 080 000 voitures. Vous savez combien on en a fabriqué l'année dernière? 650 000. Je crois qu'on a tous compris qu'on avait un sujet. Comment voulez-vous ne pas être ému quand on est chef d'entreprise comme moi, après toutes ces années d'industrie, après avoir vu toutes nos usines dans le nord de la France, ces usines qui sont totalement sous-utilisées? Comment voulez-vous qu'on imagine une usine comme Douai, avec une capacité de 350 000 ou 400 000 véhicules dans les temps passés, et qui n'en fabrique que 80 000?
C'est pour ça qu'ils sont inquiets.
Ils
se disent, il y a pas assez de production, donc on va fermer les usines.
Il y a en France aujourd'hui une surcapacité de véhicules. Nous en avons aussi des soucis à l'étranger. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes trop large en termes de structure pour ce que nous sommes réellement.
Donc, c'est un plan de remettre, repli de Renault.
Je ne parlerai pas de repli, un plan de rebond. Ça me va beaucoup mieux. Ce n'est pas parce qu'on se muscle pour mieux repartir qu'on est perdu. Au contraire. Et je pense que la réalité, c'est que nous n'allons pas supporter longtemps d'avoir des sites comme cela qui, en réalité, ne sont pas utilisés comme il convient. Ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, on aurait dû, je pense, anticiper ça plus tôt. C'est à nous de le faire, c'est mon devoir de vérité, c'est mon devoir, et nous allons le faire ensemble.
Voilà. Alors vous avez un devoir de vérité, vous le dites, et vous insistez aujourd'hui spontanément là-dessus. Qu'en est-il par exemple de l'usine de Caudan en Bretagne? Vous avez dit que l'usine, pour l'instant, restait ouverte, et les salariés s'en sont félicités. Et en même temps, dans le monde, Jean-Dominique Sénard, vous dites, son avenir n'est pas dans le groupe Renault.
Oui.
Est-ce que cela signifie que cette usine est aujourd'hui à vendre?
Oui, je pense que ça fait partie des solutions possibles. On a dit très clairement que nous allions ouvrir une analyse stratégique sur cette entreprise. Et donc, parmi les solutions que nous allons discuter avec d'ailleurs les parties prenantes, la cession en fait partie. Clairement, je pense que cette entreprise n'a pas vocation à rester dans le groupe
Renault. Qu'est-ce qu'on fabrique à Caudan?
On y fabrique la fonderie d'acier. Et alors, c'est bien pas si simple de comprendre que, avec l'évolution incroyable des technologies de motorisation des véhicules, cette entreprise, depuis des années, sait très bien que son avenir est à risque. Est-ce que vous savez combien il faut de kilos de fonte d'acier dans un moteur thermique et un moteur propulsion, disons l'ensemble? Il faut plus de 70 kilos. Vous savez combien il en faut pour un moteur électrique? 4,5 kilos. Je veux dire, on n'a pas besoin de faire de longs travaux pour comprendre que la perspective est un site qui, depuis très longtemps, a une orientation. Je pense que c'est notre responsabilité collective de nous occuper des personnes qui travaillent dans ce site, de les former, de les aider à trouver un avenir, plutôt que de faire comme on a fait probablement pendant des années, c'est-à-dire perdre énormément d'argent tous les ans et engloutir finalement en pure perte, parce que finalement les gens qui souffrent à la fin, ce sont les travailleurs de cette usine. Et je pense à eux tout le temps, parce que je me dis qu'on a maintenant un seul devoir, c'est de s'occuper de leur avenir.
Et Jean-Dominique Sénard, quand vous entendez toutes ces politiques qui s'émeuvent de ces fermetures, c'est le cas de Maubeuge avec Martine Aubry, avec Xavier Bertrand, c'est le cas aussi pour Caudan en Bretagne, est-ce que vous estimez qu'ils sont irresponsables, justement? Parce que ça serait une menace pour le groupe de ne pas agir. Comment vous percevez ces pressions politiques?
Jamais je ne qualifierais d'irresponsable une personne politique. J'ai une grande admiration, un grand respect pour leur métier. Il est dur, il est difficile, il est soumis à énormément de pressions. Ce que je voudrais, c'est, dans l'avenir, comme j'ai toujours souhaité d'ailleurs, que les équipes politiques du pays prennent en compte l'avenir de notre industrie sans se concentrer sur des objectifs court terme qui parfois ont une connotation, électoraliste. Et je pense que les grands hommes et les grandes femmes politiques de notre pays sont précisément celles qui sont capables de prendre le recul nécessaire et avec les grands industriels et les grands responsables économiques de forger l'avenir. Si vous voulez bien, je vous parlerai de ce que je pense être un optimum dans la relation des institutions françaises dans l'avenir. Mais pour moi, je ne critiquerai une personne politique parce que j'ai le plus grand respect. J'ai même moi-même tout fait pour que les salariés des entreprises dont j'avais la chance d'être le président puissent aborder la vie politique en toute liberté.
Et quand Martine Aubry dit c'est inacceptable, Jean-Dominique Sénard, elle le tweet, elle dit voilà, il faut être tous derrière MCA. C'est inacceptable parce qu'il y a une aide de l'État de 5 milliards à Renault, on y viendra.
Je vous propose et je lui proposerai volontiers de lui reparler du sujet et de parler tranquillement quand nous aurons fait cette immense ouverture dont je parlais tout à l'heure auprès des élus, des responsables
syndicaux. Vous n'avez pas eu de contact jusqu'à présent avec Martine Aubry ou Xavier Bertrand qui étaient dans la manifestation hier?
Si, j'ai parlé à Xavier Bertrand, bien entendu, nous avons évoqué des choses, j'ai parlé aux hommes politiques. Écoutez, imaginez-vous que je suis seul dans mon bureau, dans une tour, isolé? Mais non, bien sûr que non.
Mais ils comprennent quand vous leur dites au téléphone, mais regardez, on a une surcapacité, il faut adapter les usines.
Je crois que quand on parle du sujet de Renault et de son avenir, tout le monde comprend très bien le sujet. Il suffit de l'expliquer. Et donc je n'ai aucun doute que les propos de ces personnes reflètent finalement la qualité de la relation que nous avons dans notre compréhension commune.
Il y aura en début de semaine une réunion à Bercy, en tout cas c'est ce qu'on a compris, à propos des inquiétudes des salariés.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que c'est le moment où le gouvernement va vous aider à convaincre les salariés ou c'est au contraire le moment où le gouvernement va vous demander des comptes?
Non, je crois qu'on n'attend certainement pas du gouvernement qui me demande des comptes. Je crois que le gouvernement nous appuie dans cette démarche. Cette réunion à Bercy a, je crois, comme objectif principal de lancer justement cette conversation que nous devons avoir, d'ouvrir, je dirais un peu officiellement, le fait de cette grande concertation. Ça me va très bien. Voilà. Et donc, pardonnez-moi, mais non seulement je le souhaite, mais je vais y attacher énormément d'importance et énormément d'énergie. Je souhaite simplement que cela se fasse rapidement. Autant je pense que nous devons prendre notre temps pour faire les choses bien, autant je souhaite qu'on commence rapidement, parce que, pardonnez-moi, j'ai aussi un devoir, c'est de dire qu'il y a une certaine...
Mais c'est au gouvernement de cadrer les choses.
Non, je ne crois pas. Le gouvernement nous appuie d'une certaine manière, le gouvernement s'est senti impliqué, ça ne me choque pas particulièrement, s'agissant de l'industrie française et de Renault. Mais c'est nous, Renault, qui allons avec nos équipes traiter avec les représentants des travailleurs ce qui va se passer dans l'avenir,
je vous garantis que c'est comme ça que ça va se passer. Quand l'État vous demande des contreparties... Vous trouvez ça normal ou anormal en termes
à ce prêt prévu de 5 milliards d'euros garanti par l'État?
Je vais vous dire ce que je pense de cela. Je crois que l'État nous appuie et je lui en suis très reconnaissant. Je dois dire d'ailleurs au passage que la relation que nous avons avec les équipes de l'agence participation de l'État sont de très très bon niveau et notamment avec son chef Martin Vial. Et donc je me félicite de ça. L'État nous appuie et il nous permet de constituer un filet de sécurité qui est en réalité un ensemble de prêts bancaires auquel il va apporter sa garantie. Ce filet de sécurité qui est indispensable pour Renault aujourd'hui, compte tenu de la crise du Covid, c'est elle qui rend la chose indispensable, va nous permettre de travailler tranquillement pour rebondir dans la suite, exactement dans la méthode que je viens d'évoquer. Je vais vous dire une chose. Il sera de l'honneur de Renault et de ses équipes de rembourser ces prêts bancaires si nous les utilisons.
Pas sûr
et de dire et de dire que nous n'aurons jamais utilisé un euro des contribuables français. Voilà. Ce n'est que dans le cas où nous ne pourrions pas le faire que l'État se substituerait à nous. Et alors à ce moment-là, j'en serais très triste parce que ça voudrait dire que nous aurions raté notre transformation. Je n'ai pas cette grille en tête.
Ça veut dire que l'État n'a pas à vous fixer des contreparties à cette garantie de près de 5 milliards. C'est la marche normale des affaires.
Vous savez, dans la vie normale, il est normal qu'il y ait un dialogue. Moi, ça ne me choque pas du tout. D'ailleurs, vous savez que les garanties que l'État a demandées, en l'occurrence, le fait que nous ne retardions pas les contraintes CO2 qui s'imposent à nous dans la réglementation. Ça ne vient pas du tout, c'est ce qu'on voulait faire. De toute façon, je l'avais dit moi-même au niveau européen. Qu'on nous demande notamment de payer nos fournisseurs Ruy sur Londres, c'est ce que nous faisons systématiquement et nous en avons fait un principe directeur. Ce genre de choses, vous savez, franchement, n'est pas un gros problème pour nous. Nous avons naturellement mis cela par écrit. Pour nous, la question est réglée.
Jean-Dominique Sénard, juste pour qu'on soit clair, vous n'irez pas au-delà de 4600 suppressions d'emplois dans les 3 ans à venir. C'est le chiffre définitif et 15 000 pour le monde. Ou est-ce que vous pourriez être amené à aller au-delà?
Écoutez, aujourd'hui, je crois que nous avons travaillé sérieusement. Nous avons fait un travail exhaustif avec les équipes de Clotilde Delbos tout le long de ces derniers mois. Maintenant, nous voudrions partager ce travail. Évidemment, ne me demandez pas si c'est à 50 personnes près, ça n'a pas de sens. Ce qui compte derrière tout ça, c'est le rebond de Renault. Si nous sommes là ici, c'est quand même pour remettre le paquebot sur des rails. On m'avait demandé d'ailleurs de le faire l'année dernière. On m'avait demandé 2 choses. De mettre l'Alliance à nouveau dans la bonne direction. L'Alliance et de faire Nissan. En sorte que Renault soit enfin une entreprise qui retrouve son souffle. J'essaye, pour ma part, avec une équipe formidable autour de moi, de faire tout cela.
Mais l'industrie automobile de demain, ce sera forcément moins de salariés.
Je pense que, s'agissant de Renault en particulier, les causes que j'évoquais tout à l'heure, qui étaient plus autour d'une stratégie de course à la croissance et dans le nombre, ont provoqué la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de toutes les entreprises automobiles. Voilà. C'est le cas de Nissan, c'est le cas de Renault. Finalement, nous traitons ce problème de la même manière. Dans le cas particulier de Renault, vous avez raison, mais j'insiste, il n'y aura pas de souffrance sociale. C'est-à-dire qu'encore une fois, les personnes qui pourraient être concernées par des projets que nous allons maintenant discuter seront toutes prises en main. Il n'y aura personne sur le bord de la route. Et je compte, pour tout vous dire, que les compétences de Renault, des compétences extraordinaires des équipes de Renault aujourd'hui soient mises à profit pour l'avenir.
Flins ne fermera pas. C'est sûr, c'est définitif.
Flins ne fermera pas. Nous allons, là aussi, en parler avec les équipes. Flins va devenir un centre exceptionnel pour Renault, où vont se retrouver un certain nombre d'activités de tout premier ordre, à commencer par les activités d'économie circulaire, dont je prétends qu'elles seront dans l'avenir un des grands supports.
C'est-à-dire le recyclage des pièces.
Par exemple, Flins est un endroit extraordinaire pour ça.
2600 salariés.
Oui. Flins est un endroit où nous pouvons concentrer un certain nombre d'activités qui existent déjà, mais que nous allons déployer. L'économie circulaire. Enfin, un lieu pour pouvoir développer cette économie circulaire qui aujourd'hui a encore un peu de mal à trouver son équilibre économique, mais qui le trouvera dans l'avenir parce que c'est le sens de l'histoire. Et en plus, Renault a été précurseur dans ce domaine-là. C'est quand même trop dommage. On n'en parle pas assez. Mais vous n'imaginez pas ce qui se passe. Vous savez que, par exemple, la Zoé a ses sièges qui sont entièrement...
Et votre voiture électrique...
Oui, qui est entièrement, je dirais, faite par des reconstitutions de matériaux anciens. Non, mais juste un exemple. Oui. Et nous avons là, en fait, un foyer de compétences qui est exceptionnel que nous allons mettre à Flins. Nous allons amener à Flins un certain nombre d'activités. Nous allons proposer d'amener une partie de nos activités de prototypage, c'est-à-dire les prototypes de véhicules. C'est extraordinairement pointu. Il y a là de la logistique. Il y a là l'école de la voiture. Il y a là un certain nombre d'activités de pièces de remplacement. Il y a là une activité de remise en état pour véhicules d'occasion. Flins est pérenne. Flins va être transformé, mais Flins n'est pas fermé.
Jean-Dominique Sénard, quand même, pour rebondir sur ce que disait Adrien Jean tout à l'heure, à votre place, il y a quelques mois, il y avait Carlos Tavares de PSA, votre homologue de Peugeot, qui nous disait, oui, pour construire, fabriquer des voitures électriques, c'est moins de salariés. Ça, vous nous le confirmez quand même. Techniquement, vous avez besoin de moins de gens. Alors que les pouvoirs publics, peut-être injonction contradictoire, vous demandent de faire plus d'électriques.
Alors, techniquement, c'est tout à fait exact. Même pour fabriquer des moteurs électriques, il faut moins de monde. Moins de pièces, moins de monde, c'est parfaitement exact. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va regarder la situation en faisant l'autruche. Ça se gère, ça s'anticipe. Et notre devoir, c'est d'assurer que personne ne se retrouve malheureux par rapport à cette situation. C'est de l'anticipation, tout ça. Ce n'est pas autre chose.
Adrien Gendre.
Vous dites que vous ne souhaitez rendre personne malheureux, que vous allez traiter toutes les situations individuelles. On l'a bien compris. Qu'en est-il des intérimaires et des sous-traitants? Parce qu'au-delà des salariés dont on a parlé qui sont salariés de Renault, il y a tous ceux qui ne sont pas directement salariés du groupe.
Oui, ça fait partie effectivement des sujets à traiter. Ce ne sont pas des personnes que nous considérons comme indifférentes. Pour nous, quand on traite un sujet de cette nature, on englobe tout le monde. Par conséquent, nous aurons des relations avec les sous-traitants, nous allons les travailler avec eux pour voir quel peut être leur avenir, et au passage, je ne suis pas inquiet. Parce que, en général, les partenariats avec nos sous-traitants sont quand même extraordinairement forts. Et la question sociale s'intègre intégralement dans ce sujet-là. Pour ma part, je n'ai jamais vécu une situation dans ma vie industrielle où ce sujet-là n'était pas traité correctement en même temps que pour la société principale. Par conséquent, je vous garantis qu'on va s'en occuper aussi. Vous savez, quand même,
quand vous dites
la filière des sous-traitants pour Renault, c'est tout à fait fondamental. C'est tout de même une filière qui vit avec nous de plus en plus en partenariat. C'est fini le temps où on était complètement séparés et on faisait que des choses transactionnelles. Ça n'existe plus. Et donc un lien qui est quasi personnel, enfin fusionnel entre nos sous-traitants et nous est en train de se construire. Par conséquent, il n'y a aucun sujet. Bien entendu que nous prendrons ça en compte.
Guillaume Roquette.
Le président de la République parle beaucoup de réindustrialisation, de relocalisation en France de nos activités industrielles à la lumière de la crise du coronavirus. Est-ce que c'est une solution? Vous nous parlez plutôt de restructuration avec plutôt des moins de personnel et moins d'effectifs et donc moins d'usines en France.
Merci de me donner l'occasion d'en parler parce que nous allons enfin pouvoir parler du plan. Ce plan a un caractère défensif, on est d'accord. Je ne le cache pas, parce qu'il s'agit de remettre la compétitivité de Renault à niveau. La concurrence ne va nous faire aucun cadeau. Qu'on ne nous dise pas que le monde après Covid va être plus tendre que celui d'avant. Je vous dis tout de suite, c'est l'inverse.
Ce sera pire.
Oui, je crois. Il ne faut surtout pas se bercer d'illusions. Nos concurrents ne nous feront aucun cadeau. Quand je disais, en faisant peut-être sourire tout récemment dans une interview au Sénat, je crois, que nous n'aurions bientôt plus que nos œufs pour pleurer si on ne s'occupait pas de la compétitivité des Françaises parce que les véhicules chinois électriques allaient arriver en Europe et qu'en 3, 4, 5 ans, nous allions avoir affaire à ce que j'ai connu dans le pneumatique, c'est-à-dire une forme d'invasion. Comment les critiquer? Nous ferions la même chose à leur place. Eh bien, c'est en train d'arriver. Figurez-vous qu'ils arrivent maintenant en Norvège. Elles sont très au point. Comment voulez-vous que l'on lutte face à ce genre de choses, si nous ne nous mettons pas en ordre de bataille maintenant? C'est du bon sens, tout le monde peut le comprendre. Et mon intention, c'est de faire que non seulement nous soyons capables de le faire, mais en plus de façon...
Mais relocaliser,
c'est
intéressant. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le mantra de tout le monde formidable pour
le
monde.
Est-ce c'est
que
normal, c'est le cas? Mais c'est normal qu'on dise ça. La crise a tout de même montré qu'on avait quelques fragilités du côté de nos fournisseurs. Heureusement que nos équipes sont exceptionnelles, le groupe a le moins souffert possible de cela. Mais attendez, mon point, c'est que notre plan est défensif parce que la concurrence ne nous fera aucun cadeau, mais il est aussi offensif. Et je vais vous dire des choses, on a pris des décisions, et là pour le coup on les partagera aussi avec tout le monde, mais qui sont quand même incroyablement particulières. Nous avons pris la décision d'interrompre les croissances de capacité au Maroc et en Roumanie. En d'autres temps, on nous aurait demandé qu'est-ce qui nous arrivait. Nous prenons cette décision parce que nous voulons commencer à réorienter le bateau. Nous avons pris des décisions, y compris en Turquie, en Corée, en Slovénie, de récupérer des activités pour les fondre et mieux les organiser avec les autres activités du groupe, et plutôt à l'Europe de l'Ouest. Nous avons pris la décision d'arrêter un projet de construction de moteurs électriques de 100 kW, ce qui n'est quand même pas rien, en Chine. Nous allons le faire à Cléon, en France. Alors, mon point, c'est que nous avons un plan mondial, que nous commençons à orienter le bateau et que nous allons nous occuper de la France. Et le point français, on en a parlé, il est majeur. Il est hors de question de rester avec un ensemble de sites qui soient sous-compétitifs comme ils le sont aujourd'hui. Nous allons le changer et nous allons le faire ensemble.
Nous poursuivons cette émission dans quelques minutes, ce grand jury avec Jean-Dominique Sénard, invité exceptionnel aujourd'hui. À tout de suite.
Entrepreneurs, on se relève et on se révèle. BPI France et votre région croient en vous. Toutes les tendances s'accélèrent. BPI France, servir l'avenir.
La paire.
Il faut qu'on parle. Après 2 mois enfermés ensemble, j'arrête là. Oui, ben avec toi, il y a toujours un truc. Un tiroir qui coince, le plan de travail qui s'écaille. Moi, j'ai besoin de stabilité. Et jusqu'au 8 juin chez La Paire, il y a 150 euros offerts tous les 1000 euros d'achat sur toute la cuisine et même sur la pause.
Si on changeait quelques meubles, on serait peut-être plus heureux tous les deux.
La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur lapaire.fr.
Votre attention, s'il vous plaît. 200 000 Français paient leur carburant 30% moins cher. Qui, quand, comment, pourquoi? Est-ce qu'ils se connaissent?
Ne cherchez plus et payez votre carburant moins cher en roulant en GPL avec la gamme EcoGé Dacia et ses nouvelles motorisations essence compatibles GPL sans surcoût. Et en plus, bénéficiez jusqu'à 3000 euros de prime à la conversion sous condition de reprise. À découvrir en juin pendant les jours EcoGé Dacia. Voir conditions sur dacia.fr et sur primealaconversion.gouv.fr.
RTL, il est 12h30. Les infos, Aude Vernuccio.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Le secteur de l'auto a vécu un séisme majeur avec la pandémie. Renault est fragile selon le PDG de la marque aux losanges sur RTL. Jean-Dominique Sénard n'a jamais eu l'intention de fermer le site de Maubeuge en grève depuis vendredi. Il assure dans le grand jury ce midi que les discussions sont ouvertes et promet qu'il n'y aura pas de souffrance sociale. La direction prévoit 4600 suppressions d'emplois dans son plan d'économie. Les aides pour l'achat de véhicules propres entrent en vigueur demain. Le décret vient de paraître au journal officiel. Nouveau bonus de 2000 euros pour les véhicules hybrides, plus 1000 euros de bonus pour l'électrique. 100% de l'offre des trains disponibles dès la mi-juin, annonce du secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebbari. La règle d'un siège sur deux est levée. Plus d'un an après l'incendie de la cathédrale, réouverture du parvis de Notre-Dame de Paris. Inauguration à 15h en présence du diocèse et de la maire de la capitale. Des coups de feu hier soir à la Seine-sur-Mer dans le Var. 3 blessés, dont un enfant de 8 ans. Ses jours ne seraient pas en danger. Aux États-Unis, 5e nuit d'émeute à Minneapolis après la mort de George Floyd suite à son interpellation par la police. Les manifestations aussi ont eu lieu à New York, Los Angeles ou encore Chicago. RTL, il est midi 31. Dans un instant, la suite du grand jury RTL LCI Le Figaro avec le PDG de Renault, Jean-Dominique Sénard.
Découvrez La vie est un roman de Guillaume Musso.
Je m'appelle Flora Conway. Il y a 6 mois, ma fille de 3 ans, Carrie, m'a été enlevée alors que nous jouions à cache-cache chez nous à Brooklyn. Mais rien, jamais, ne me fera renoncer à la retrouver.
La vie est un roman et Guillaume Musso nous emporte dans une histoire étourdissante où s'unissent le pouvoir infini des livres et une extraordinaire rage de vivre. La vie est un roman de Guillaume Musso aux éditions Calmann-Lévy.
Entrepreneur, on se relève et on se révèle. BPI France et votre région croient en vous. Toutes les tendances s'accélèrent. BPI France, servir l'avenir.
Et si on parlait Renault Occasion ?
Chérie, montre à Martin nos photos de vacances.
Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud.
Ça a l'air beau ce village, enfin derrière votre Clio.
Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion.
Ah oui, on peut pas la rater là.
Vous allez être fier de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro de plus. Voir les conditions de l'offre sur renault-occasion.fr.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le PDG du groupe Renault Nissan Mitsubishi, Jean-Dominique Sénard. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Jeanne de TF1 LCI. Nous parlions bien sûr dans la première partie des efforts qui vont être demandés aux salariés, avec notamment ces suppressions d'emplois. Qu'en est-il de vous ? Vous aviez annoncé, Jean-Dominique Sénard, et ça avait été bien perçu, 25% de moins sur le salaire des dirigeants, dont vous-même sur le deuxième trimestre, oui. Parce qu'il fallait faire un effort à cause du Covid. Est-ce que vous allez reconduire cette mesure, vous concernant et concernant les dirigeants pour le troisième et le quatrième trimestre, Jean-Dominique Sénard?
Écoutez, on n'a pas pris de décision là-dessus aujourd'hui, je vais être très transparent avec vous. On va en parler au Conseil et on décidera tranquillement ce sujet-là.
Qu'est-ce que vous proposerez, vous?
Écoutez, je n'ai pas vraiment réfléchi au sujet parce que je vis en ce moment sur des événements relativement lourds et pour moi, c'est d'une évidence que nous devons participer, je dirais, au problème général. Ça ne pose aucun problème dans la maison, c'est tellement naturel. J'avoue que je n'ai pas tellement réfléchi à ce sujet-là, mais franchement...
Mais vous semblez dire que ça vous paraîtrait normal de continuer sur ce chemin-là.
Oui, voilà.
D'accord, bah c'est dit, c'est clair.
Et pour les salariés, est-ce que dans le plan et dans les efforts que vous demandez, il y aura aussi une pause salariale l'année prochaine ? Il y aura des mesures de ce type ?
Ce n'est absolument pas quelque chose que j'ai envisagé aujourd'hui, ni avec les équipes. On va en parler avec, encore une fois, tous nos contreparties, mais pour moi, ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas ça le sujet important. Le sujet important, c'est au contraire tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire en arriver enfin avec le paquebot France et le paquebot Renault à la hauteur qui va bien.
Adrien Gendre.
Et en fonction de l'évolution de la situation de Renault, il se posera à un moment la question de verser ou pas des dividendes aux actionnaires. Est-ce que c'est un problème, là, pour le coup, auquel vous aviez déjà réfléchi? En 2019, décision avait été prise qu'il ne serait pas versé. Qu'en est-il pour l'année à venir, l'année prochaine?
Voilà, franchement, permettez-moi de vous dire que c'est vraiment trop tôt pour le dire. L'année 2020 va être une année très difficile, même je dirais très difficile. Elle l'est pour Nissan, elle l'est pour Renault, et nous ne sommes que fin mai. Donc, si vous le voulez bien, laissons dérouler l'année. Mm-hmm. Voyons comment le deuxième semestre réagit. Et je suis optimiste. Je sais, vous savez, je fais partie de ceux qui pensent que le deuxième semestre, pour le plan automobile, peut être bien meilleur. Mais c'est trop tôt pour le dire, honnêtement. On n'a pas la science infuse. Attendons pour ça, c'est des décisions que nous prendrons l'année prochaine.
Vous sentez un rebond, là, un frémissement ou pas? Très honnêtement, depuis la fin du confinement, est-ce que les gens retournent dans les concessions, Jean-Dominique
Sénard? En matière de rebond, j'ai vu mieux, n'est-ce pas, dans ma vie.
Parce que vous étiez assez optimiste, vous vous disiez que ça pouvait rebondir très tôt.
Oui, parce qu'il faut quand même que j'ai un fond d'optimisme, mais rassure que ça s'exprime, si vous voulez, de temps en temps.
Alors, est-ce que les gens sont...
Je suis persuadé que ça va revenir bien, parce que, si vous voulez, la voiture est apparue assez paradoxalement au moment du confinement et après, comme un élément et un vecteur assez extraordinaire de mobilité, de liberté et de sécurité. Et donc, je pense qu'en effet, ça va revenir. Et comme en plus, le mouvement qui est parti vers une forme de mobilité durable, pour laquelle d'ailleurs Renault a tous les brevets qui vont bien, et c'est un mouvement qui est maintenant incontournable, il va s'accélérer. Je vous rappelle que nous allons tripler la fabrication des voitures électriques en France d'ici 2022 et quadruplé d'ici 2024. Ce grand mouvement-là, si nous réussissons notre transformation, je vous garantis que ça va repartir et que ça va repartir très fort. Voilà, il faut peut-être, et c'est évident, après cette période invraisemblable de quelques mois que nous venons de passer, comprendre que les Français se sont retenus. Ils ont d'ailleurs constitué une épargne considérable et que l'automobile n'était peut-être pas la première chose auquel ils ont pensé au déconfinement. Mais vous allez voir, ça va revenir très
vite. Et vous leur lancez un appel aux Français du patriotisme économique. Vous leur dites, vous aviez l'intention d'acheter une voiture, venez chez Renault plutôt que chez nos concurrents. Parce que les bonus qui vont être accordés par l'État vont aussi concerner les marques étrangères.
Oui, mais ça, c'est une décision qui ne me paraît pas choquante. Après tout, nous sommes quand même dans un monde ouvert. Mais elles vont bénéficier aux marques françaises et à Renault également. D'ailleurs, je me suis félicité de ces dispositions courageuses. Je l'ai dit au gouvernement et au président de la République l'autre jour, lorsque nous étions tous ensemble à l'Élysée. Je pense que c'est bien, ça va nous aider à soutenir, je dirais, les stocks que nous avons aujourd'hui dans les concessions vont pouvoir trouver enfin leurs clients. Et puis ensuite, ça va accompagner le redémarrage de nos usines qui a lieu, comme vous le savez, en ce moment. Il faut surtout que tout ça soit bien équilibré, que ça arrive dans le bon temps. Et vous verrez, je pense que cela va aider à donner le sentiment, notamment aux Français, qu'acheter un véhicule électrique, finalement, c'est pas si mal, et qu'aider comme cela, ça vaut la peine d'essayer.
Et juste avant d'en venir justement aux gammes que vous allez développer, à vos stratégies, est-ce que vous allez consentir des gros rabais sur le stock existant pour ceux qui viennent aujourd'hui acheter des voitures dans vos concessions?
Alors, il y a des sujets commerciaux, évidemment, vous le sentez bien, mais l'objectif n'est pas de brader. Si nous commençons comme cela... on va continuer ce qui s'est passé pendant pas mal de temps chez Renault depuis quelques temps, c'est-à-dire qu'on vendait les prix et finalement les voitures étaient vendues à des prix qui n'étaient pas représentatifs de la valeur de la technologie qu'ils contenaient, et que ça c'est un très grand danger pour Renault, parce que une fois que ce mouvement est pris, eh bien il est très difficile de revenir en arrière. Au contraire, nous avons maintenant, je vous le dis, avec les véhicules qui vont sortir, le Captur hybride, le Clio hybride, bientôt le véhicule Dacia électrique, les véhicules utilitaires qui eux-mêmes auront une dimension écologique. Ces véhicules qui sortent maintenant sont dotés d'une des meilleures technologies hybrides au monde, je le dis sans fanfaronner, parce que tous les experts extérieurs ou intérieurs qui l'ont considéré nous disent que c'est probablement une des plus belles au monde. Alors on va
quand
même
pas bouder. C'est quoi la électrique, Jean-Dominique Sénard, parce que ça intéresse les gens, c'est un produit c'est un modèle low cost,
oui.
Est-ce que vous pouvez leur donner une date aujourd'hui?
Ah, et bien le modèle est en bas dans le hall d'entrée du groupe à Boulogne, et j'estime, et je regarde la directrice générale d'ici, mais je pense que d'ici la fin de l'année, nous la verrons arriver. Voilà.
D'ici la fin de l'année.
Oui, d'accord. Oui, quelque chose comme ça.
Guillaume Roquel.
Si on comprend bien les exemples que vous venez de donner, Renault croit davantage dans les véhicules hybrides que dans le tout électrique, avec par exemple la Zoé dont vous avez parlé tout à l'heure.
Non, nous avons commencé par le véhicule électrique, on a été précurseur. Il faut quand même dire les choses. Et nous avons un temps d'avance dans la mesure où on a une période dans laquelle on a pu travailler tout cela. Il s'agit d'accélérer maintenant. L'hybride est nécessaire parce que personne ne sait aujourd'hui franchement ce que seront les vrais modes de propulsion dans les 10-15 ans qui viennent. À un moment donné, les choses vont s'équilibrer. Pour tout vous dire, en prenant un peu un pari fou, je pourrais dire que dans 15-20 ans, ça coûte pas cher de faire ce pari maintenant, il y aura surtout de l'électrique et peut-être de l'hydrogène. Je vois un peu ça comme ça. Entre-temps, il est vraisemblable que le véhicule hybride va prendre son ampleur. Les études aujourd'hui, qui sont relativement sérieuses, disent qu'en gros, d'ici 2025 et 2030, il va y avoir une accélération et que l'ensemble des véhicules électrifiés représenteront en 2030 51% du marché. C'est-à-dire en gros que plus de la moitié des véhicules vendus en 2030 seront électriques, électrifiés, et là-dedans, l'électrique sera 20%. Ça veut dire que l'hybride sera 30%. C'est très raisonnable. 10 ans plus tard, ça aura probablement changé.
Mais est-ce que Renault sortira encore de nouvelles voitures thermiques avec une énergie classique, ou vous ne ferez plus que de l'hybride ?
C'est en train de, naturellement, de prendre la tendance à la baisse, c'est évident. Je vous dirais franchement que on pourrait revenir en arrière sur la question de l'arrêt du diesel.
Oui, c'est pour quand, à votre avis ? Est-ce que vous allez arrêter le diesel ?
C'est évidemment en train de descendre.
Mais vous avez une date pour nous ?
Non, parce que ça va s'étaler en sifflet entre maintenant
2040,
et 2030.
Par exemple ?
Non, 2030-2035. À mon avis, il n'y aura plus à ce moment-là de diesel. Mais vous savez, je voudrais dire quand même quelque chose. La transformation du marché par la suppression du diesel a été, à mon sens, beaucoup trop brutale. Je pense que ça s'est fait dans des conditions qui étaient plus émotionnelles que rationnelles. On n'a en réalité pas fait d'analyse d'impact. Et c'est ce que je regrette souvent dans les décisions qui sont politiques, ou parfois avec une dimension européenne, prises sous le, je dirais, avec une très belle intention, mais avec un fond extraordinairement émotionnel, c'est qu'on ne se rend pas compte des conséquences que ça a. Et je vous dirais franchement que si aujourd'hui la filière automobile en France a des soucis, si ça et là des clignotants s'allument, on parlait des fonderies tout à l'heure de Bretagne, c'est précisément parce que je crois que nous n'avons pas eu le temps d'anticiper ce changement. Et en plus, on a traité le modèle diesel très négativement, alors qu'en fait, la technologie est devenue très très au point. Alors, je vous dis ça parce que je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à ne pas aller trop vite dans les transformations à venir et s'assurer que l'industrie automobile dans son ensemble a été capable d'investir pour trouver les bonnes technologies. J'ai même pas parlé d'investissement tout à l'heure, mais pensez-vous que si nous faisons cette transformation, c'est uniquement pour le plaisir de la faire ? Mais non ! Mais c'est que nous avons des besoins d'investissement mais colossaux devant nous. Comment voulez-vous que nous le fassions si nous ne rétablissons pas nos marges ? Il y a un moment donné où il faut regarder l'arrêté en face, si nous n'avons pas les moyens d'investir, eh bien là aussi, ça sera un signe de grande fragilité.
Combien d'années vous vous laissez pour redevenir numéro 1, Jean-Dominique Sénard, ou c'est un rêve qui s'éloigne,
Voyez-vous, c'est un rêve que je n'ai jamais eu. Alors ça tombe bien, comme ça m'épargne de faire des cauchemars.
Parce qu'on a toujours envie d'être numéro 1 pourtant, non ?
Écoutez, oui, en performance économique, ça va bien, parce que c'est ça qui protégera les emplois de tout le monde. C'est ça qui fera que l'entreprise Renault sera reconnue. C'est ça qui fera que la qualité des véhicules Renault sera valorisée comme il convient. C'est beaucoup plus important que d'être numéro un en monde. Comment voulez-vous ? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Imaginez-vous que je sois là à chercher à additionner les véhicules dans tous les sens. On aurait construit des trottinettes. Voulez-vous que je les additionne pour être numéro un mondial ? Ça n'a pas de sens.
C'est ce que faisait votre prédécesseur un peu, cette course à la...
Écoutez, je n'aime pas la polémique avec les prédécesseurs. Et donc, je vais m'abstenir. Je sais, par expérience, que c'est facile d'analyser le passé. Et le passé, c'est jamais noir ou blanc. Et donc, je m'abstiendrai de cela. En revanche, le groupe hérite d'une situation qui est le résultat d'une stratégie. Et il s'agit de le gérer. Et tout ce dont nous avons parlé depuis le début est lié à cela. Donc, je dirais franchement que les stratégies sont ce qu'elles sont. Elles sont prises à un moment donné, dans un contexte donné, avec un objectif donné. C'est pas moi qui vais critiquer cela. Par contre, je dois, et ça c'est mon devoir, en gérer les conséquences.
Adrien Jean.
Vous ne souhaitez pas commenter sa stratégie, mais votre prédécesseur, lui, ne se prive pas de réclamer à Renault une indemnité de départ à la retraite de 250 000 euros. Il vient de se désister de sa procédure en référé, mais pour, au contraire, passer une procédure au fond qui est déposée. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
C'est une décision qui lui appartient. C'est une question juridique. Pour tout vous dire, c'est tellement éloigné de mes préoccupations aujourd'hui. Je suis plongé dans le problème de l'avenir des personnes de Renault, de leur employabilité. Franchement, ces questions-là, c'est un autre temps.
Mais en même temps, ils se disent que ce patron, Carlos Ghosn, avait été adulé, c'était un grand patron, et je disais en introduction de cette émission, c'est un prodige qui est devenu paria. Est-ce qu'il n'y a pas eu un excès dans les deux qualifications ?
Je crois que la réponse est dans votre question. Vous savez, alors, il y a une chose qui m'importe énormément en tant que patron de Renault, bon, parce que je suis comme ça et que je ne changerai pas, c'est que je crois qu'il faut être humble. Je vous disais tout à l'heure que je pense que toutes les idées viendront du terrain. Je pense qu'on a le droit d'avoir des idées aussi, mais il faut être humble. Honnêtement, on a vu tellement de choses ces dernières années que prétendre avoir la science infuse, ça ne me paraît pas raisonnable. Je serai toujours, je vous le promets, de l'humilité qui va bien.
Qu'il n'a que votre prédécesseur, vous semblez le dire, n'a pas eu avant vous. Guillaume Roquette.
Oui, vous nous avez parlé d'une forme de relocalisation. Est-ce que dans cette perspective, la stratégie de l'alliance, donc cette grande alliance avec Nissan qui a été mise en place par votre prédécesseur, a encore un sens?
Oui, encore plus aujourd'hui qu'avant. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Si vous voulez. D'ailleurs, lorsqu'il y a quelques jours, nous avons annoncé le nouvel élan de l'alliance, le monde extérieur a bien compris que quelque chose avait changé. Nous sommes passés d'une situation qui était conflictuelle, désordonnée, désorganisée, lourde, paralysée, à une situation apaisée, avec des managements qui fonctionnent ensemble quasiment au quotidien, un conseil de l'Alliance que j'ai l'honneur de présider, qui fonctionne magnifiquement et qui a enfin établi les règles d'or pour les marches à suivre dans l'avenir. Je vous assure, c'est impressionnant. Alors oui, on va en profiter, bien sûr. Plus que jamais. Parce qu'il y a une chose que j'ai dite, et jusque-là, on ne me croyait pas vraiment, on disait, il est optimiste. La réalité, c'est que l'Alliance a un potentiel gigantesque.
Mais est-ce que sa taille est suffisante?
Je pense que nous allons réussir à démontrer que cette forme de fonctionnement, telle que nous l'avons réglée, va nous rendre l'Alliance au plus haut niveau de l'industrie automobile d'ici quelques années. Je ne dis pas ça pour me faire plaisir, je sais maintenant que nous avons les règles, nous avons maintenant la capacité de le faire, et en plus la volonté, ça tombe bien, le changement d'état d'esprit est majeur.
Il n'y a plus besoin d'élargir cette alliance aujourd'hui?
Écoutez, je préfère qu'elle devienne attractive d'abord et affirmée, parce que c'est comme ça qu'on la rendra, je dirais, plus large.
Mais vous regrettez l'échec de l'alliance avec Fiat, que vous souhaitiez, que vous appeliez de vos voeux, et le ministre de l'économie ne l'a pas souhaité, on peut le dire ainsi.
Oui. Aujourd'hui, pour tout vous dire, pour moi, c'est aussi une vieille histoire. Je ne vais pas changer d'avis, ce n'est pas mon habitude. Je m'étais engagé sur ce projet, je trouvais qu'il était bon. En prenant le recul qui va bien et la hauteur de vue qui va bien, je pense qu'une consolidation des acteurs dans l'automobile me paraît nécessaire. Si vous voulez, j'ai suffisamment de hauteur de vue pour savoir que si ce projet va de l'avant, eh bien c'est très bien comme ça, je ne vais certainement pas le critiquer. Les choix ont été faits, je m'y suis adapté, et maintenant je sais quelles sont mes priorités.
Et PSA est un modèle pour vous ou pas?
Oh écoutez, il faut toujours respecter ses concurrents. Pour ma part, dans ma vie industrielle, je n'ai fait que cela. Et donc je les observe.
Et vous parlez avec Carlos Tavares?
Je les observe de près, bien sûr, de très bons rapports. Mais je dirais franchement que ce qui s'est fait chez PSA, d'une certaine manière et d'une certaine mesure, est également quelque chose que nous pouvons assez bien faire nous-mêmes.
Vous allez voir ce que vous observez avec PSA, puisque vous allez être ensemble dans cette filière batterie qui a été voulue par les pouvoirs publics, que vous allez investir aux côtés de PSA, aux côtés de Total. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin de ça, alors qu'il y a déjà des batteries qui sont développées dans le groupe en Asie?
Juste un mot sur l'alliance et je réponds tout de suite. N'oubliez pas Daimler. Nous sommes liés à Daimler. Et nous avons décidé de relancer cette alliance à la fin de l'année dernière, parce qu'elle manque un peu de souffle, diront les choses comme ça. Eh bien, nous avons trouvé un écho très favorable du côté de Daimler pour en effet relancer cette alliance, et j'espère que très naturellement, elle se développera dans les mois qui viennent. Alors, pour venir à votre question, la question des batteries, pour nous, c'est assez naturel. On est que les besoins de batteries dans l'avenir vont être considérables compte tenu de ce que je vous ai dit sur l'évolution de l'électrification des véhicules. Le fait de participer à un projet européen nous paraît assez naturel, pour tout vous dire. Ce qui compte, c'est que ce ne soit pas simplement une deuxième source de batteries. C'est important, parce qu'on a vu d'ailleurs que le monde bouge beaucoup, nous sommes de plus en plus en train de nous retrouver dans un monde d'archipel, il faut faire attention, il faut qu'on se protège un peu plus, et qu'en termes de fourniture, il vaut mieux avoir plusieurs sources d'approvisionnement. Aujourd'hui, nous sommes très bien approvisionnés. Mais que dans l'avenir, il y ait une source supplémentaire, pourquoi pas? Ce qu'il faut.
Elles viennent d'où vos batteries aujourd'hui?
Comment?
Elles viennent d'où vos batteries aujourd'hui?
Elles viennent d'Asie, pour l'essentiel.
Et elles coûtent moins cher là-bas.
Elles coûtent moins cher là-bas.
Alors que l'État vous a demandé de les fabriquer en Europe, ce qui vous coûtera plus cher.
Eh bien, nous allons essayer d'appliquer à ce projet, si nous avons la capacité de le faire, les mêmes règles que nous essayons de nous appliquer pour Renault aujourd'hui. Et vous verrez, ça marchera. La seule chose, c'est que d'abord, il faut effectivement être compétitif. Et deux, il ne faut pas se concentrer uniquement sur la technologie ancienne de la batterie. Ce qui compte dans ce projet, et j'y tiens beaucoup, c'est qu'on se projette dans les nouvelles technologies de batterie à venir. Vous connaissez les questions de batterie solide et autres. Si nous ne le faisons pas, eh bien à ce moment-là, ça sera une opportunité perdue pour l'Europe en particulier de retrouver une forme de souveraineté dans ce type d'éléments qui est tout à fait essentiel pour notre industrie. Vous savez, nous avons suffisamment perdu en Europe de souveraineté sur ces sujets-là. Il est temps de retourner la barque.
Question express.
Le grand jury, question express.
Jean-Dominique Sénard, pour ou contre la taxe carbone ?
La taxe carbone aux frontières me paraît une bonne idée. Il faut qu'elle puisse être entrée en jeu de façon progressive et intelligente. Mais elle me paraît aujourd'hui une des meilleures idées pour permettre de créer un terrain de jeu utile pour permettre justement à nos industries européennes de se développer. Il est temps qu'on valorise ce que nous faisons chez nous
comme économie circulaire. Mais quoi de taxe carbone en France ?
Pas sur les carburants.
Sur les carburants.
Non, pardonnez-moi, je pense moi aux taxes carbone à la frontière. Ça me paraît beaucoup plus.
Mais pas en France.
On a vu que c'est
pas... Que propose, vous savez, le collectif de citoyens pour l'écologie qui a été constitué ?
Eh bien, parlons-en, regardons un peu les conséquences, faisons une analyse d'impact exacte. Et puis, vous savez, je ne suis pas opposé à cela. J'ai moi-même, pendant très longtemps, appliqué un prix carbone dans l'entreprise que je dirigeais il y a ces 10 dernières années pour calculer comment on pourrait faire sur les investissements. Vous savez, j'ai toujours appelé de mes voeux comme président d'entreprise pour l'environnement la taxe carbone, mais une taxe carbone intelligente. Il ne s'agit pas d'ajouter des impôts aux impôts, il faut inverser la base. Si on rajoute des impôts écologiques, intelligents, il faut en retirer d'autres.
Alors, pour ou contre, parce que c'est une autre proposition de la Convention citoyenne pour le climat, la limitation de la vitesse sur autoroute à 120 km/h.
Oui. Écoutez, là, je suis réservé. Je pense que nous avons pris des dispositions de sécurité s'agissant des vitesses qui sont maintenant tout à fait acceptables. Je dirais que la question des vies humaines est tellement centrale dans tout ce que nous faisons aujourd'hui sur le plan technologique. Si vous saviez le travail que nos ingénieurs font sur la sécurité de nos véhicules, j'ose pas vous dire sur les pneus parce que ça ferait une redite, mais sur nos véhicules, mais c'est juste fabuleux. Et donc, en fait, maintenant, je dirais, les citoyens et les conducteurs sont dans le véhicule et ils le savent bien, beaucoup plus en sécurité qu'ils ne l'étaient. Sur l'autoroute, franchement, je n'en vois pas l'utilité immédiate, mais je suis prêt à en discuter.
Je vais vous demander un pour ou un contre, Jean-Dominique Sénard. L'allongement du temps de travail hebdomadaire.
Quand c'est nécessaire, et si ça peut permettre de redresser notre économie un peu plus vite, c'est oui, condition bien sûr qu'elle soit rémunérée comme il faut.
Vous allez le faire ?
Eh bien, écoutez, nous avons signé un accord chez Renault qui permet de le faire.
Combien vous allez augmenter ?
Nous avons un accord qui permettrait, pendant une durée limitée, dans des conditions très spécises, d'augmenter d'une journée de travail par semaine.
Jusqu'à quand ?
Jusqu'à ce que l'on redécide d'un nouvel accord.
Pour ou contre un jour férié en moins ?
Je sais que je vais être un peu impopulaire, mais tant pis, c'est mon devoir de... Là aussi,
de dire la
réalité, exactement, je pense qu'on pourrait quand même y réfléchir.
D'accord. Pour ou contre l'abandon de la réforme des retraites ?
Alors c'est très dommage, cette affaire de retraite. Je ne vais pas revenir sur les circonstances, c'est trop compliqué et trop long. Moi je vais vous dire une chose, je pense que la France sait, tous les Français savent, toutes mes discussions à Clermont-Ferrand pendant 15 ans sur ce sujet, tout le monde sait qu'il faut qu'on travaille plus longtemps. Je pense que la question de l'allongement de la durée du travail dans le temps est en fait du bon sens et que tous les Français savent que c'est ça qu'il faut faire.
Donc il faudrait qu'on travaille plus longtemps, selon vous. Pour ou contre l'abandon de la réforme des allocations chômage qui avait été engagée, certains réclament son abandon.
Je pense que de façon conjoncturelle, c'est raisonnable de reporter. Mais on n'échappera pas à terme à une réflexion de fond sur le sujet.
Pour ou contre le rétablissement de l'impôt sur la fortune, vous qui avez plaidé, encore une fois, dans ce rapport avec Nicole Nota, pour une vision sociale de l'entreprise.
Oui, et je ne renie pas ce que j'ai écrit là, je vous garantis, pour le mettre en œuvre partout où je peux, et je continuerai à le plaider. Je pense que le capitalisme responsable est un des grands sujets, on n'a pas le temps de l'aborder ici, pour l'avenir de l'Europe. La question de l'ISF me paraît secondaire à cet égard, parce qu'elle a un caractère symbolique, et je dirais franchement que la preuve n'a pas été apportée dans notre pays que l'ISF, pendant toutes ces années, a amélioré l'économie française. Si c'était le cas, on le saurait.
Pour ou contre l'obligation de la participation et de l'intéressement dans les entreprises,
ça, oui.
C'est ce que Gérald Darmanin proposait la semaine dernière à votre
et
place.
Je suis parfaitement d'accord. J'ai lu ses propos avec le plus grand intérêt. Je pense que c'est l'avenir, en effet. Je sais que lorsque la participation n'était pas possible dans le passé, j'ai souhaité qu'il y ait des participations dérogatoires. C'est le seul moyen. d'associer l'ensemble de la population de l'entreprise à cette forme de pédagogie économique qui est tellement nécessaire. C'est indispensable.
Pour ou contre, et c'est le dernier item, la taxation des contrats courts, type CDD.
Là aussi, il faut se garder d'être brutal. Je pense que ce n'est pas forcément la meilleure formule.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Bonjour Marie-Claire Haddad.
Bonjour à tous. Bonjour Jean-Dominique Sénard. Alors les internautes attendent de vous des précisions sur la fermeture de l'usine de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. C'est le seul site français qui va fermer à l'horizon 2022. L'usine compte 260 salariés. Vous avez reçu un commentaire de James qui a bien entendu votre déclaration sur le fait que l'usine de Maubeuge, elle ne fermera pas. Donc ça a eu un goût très amer pour lui. Et Jacqueline, elle ne vous croit pas. Tout simplement quand vous dites qu'il n'y aura pas de souffrance sociale. Et elle vous invite même à vous rendre sur le site de Choisy-le-Roi. Donc est-ce que vous allez y aller ?
Alors je vais aller à Choisy-le-Roi, je n'ai aucun problème avec ça.
Et quel message vous adressez aux 260 salariés ?
J'expliquerai aux équipes de Choisy qu'elles sont exceptionnelles, qu'elles sont d'ailleurs une vitrine du groupe, mais qu'on ne la voit pas assez, et que je souhaite qu'on développe leur activité et qu'on va les mettre justement dans un cadre qui va permettre de le faire, dans un écosystème qui va enfin les valoriser. Ces gens-là sont extraordinaires, c'est eux qui portent toute une grande partie de la légitimité de développement durable du groupe. Alors on ne va pas commencer à les cacher. On va les sortir et on va les mettre à flin et on va les
mais
exposer.
Mais ceux qui ne veulent pas y aller.
Eh bien, on les aidera. On les aidera par tous les moyens. Que cette personne qui ne me croit pas voit ce que j'ai pu faire avec mes équipes sur les 20 dernières années. Et vous verrez que sur ce plan-là, elle changera peut-être d'avis.
L'engagement est lancé, est entendu. Marie-Pierre Haddad.
Oui, dans une interview vendredi, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, s'est emmêlée les pinceaux. Elle a déclaré que Renault produisait 6 millions de voitures et n'en vendait que 3 millions. Et c'est faux. Vous n'en produisez que 3,8 millions. Et ce sont même les internautes qui l'ont corrigé en direct. Et ça les a beaucoup choqués, voire même certains énervés, puisque l'État est actionnaire de Renault. Quand vous avez entendu ces propos, est-ce que ça vous a inquiété, cette approximation ?
Écoutez, non, pas vraiment. Je crois que les chiffres sont rétablis. Tout le monde sait ce qu'il en est. On a le droit de se tromper. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça arrive. Hein, c'est pas grave.
Alors, à l'erreur.
Avec le déconfinement, une autre question. Anne Hidalgo a fermé certaines rues aux voitures à Paris pour favoriser la circulation des cyclistes. C'est notamment le cas de la rue de Rivoli. C'est l'une des artères principales de la capitale. Est-ce que pour vous, c'est du car bashing ou alors c'est un moyen efficace pour lutter contre la pollution ?
Je pense qu'il faut aller lentement dans ce genre d'évolution et en tous les cas le faire en concertation. Si c'est effectivement dans son esprit du car bashing, ça serait vraiment navrant. Parce que je vous ai dit d'ailleurs que les Français aujourd'hui considèrent le véhicule comme un élément de mobilité et de sécurité absolument indispensable.
Vous trouvez que c'est électoraliste, Jean-Dominique Sénat, tous ces propos ? 60 000 plages de parking en moins à Paris, par exemple.
Je ne fais pas de politique, mais... Je voudrais que l'on arrête, en tous les cas, de considérer la véhicule comme étant le danger public numéro un. Ça finira par se retourner. Et je pense qu'une chose est de se préoccuper, en effet, de réduire la pollution dans les villes. Enfin, on ne fait que ça chez Renault depuis des années. Si on quadruple la production de véhicules électriques d'ici quelques années, c'est quand même pas pour rien. On n'est pas soumis à cette pression, c'est nous qui voulons le faire. Mais je voudrais vraiment que ce ne soit pas vu comme étant une espèce de lutte contre le grand ennemi qui serait le constructeur automobile. Ça n'a strictement aucun sens et nos salariés en souffrent.
Toute dernière question, Marie-Pierre Haddad.
Oui, c'est sur la limitation de vitesse à 80 km/h. Vous savez que ça a beaucoup fait parler. Est-ce que pour vous, c'était une bonne idée ?
Écoutez, je vais vous dire, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec le Premier ministre à l'époque. Si j'avais été interrogé, je lui aurais dit, parce qu'à l'époque, j'habitais encore en province, à Clermont-Ferrand, je lui aurais dit qu'il aurait été utile d'appeler une consultation au préalable avec les acteurs régionaux afin que eux-mêmes qui sont sur place soient capables de dire ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est quoi ce que je
voulais dire. Un problème de méthode.
Merci beaucoup Jean-Dominique Sénard d'avoir été notre invité.
Mais merci à vous, bien sûr.
Bonne semaine à tous, voilà. À la semaine prochaine.
Merci, au revoir.